Premier temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux romans de rentrée à dimension historique. Pour commencer, en ces temps de rentrée littéraire qui peuvent parfois conduire à la célébrité, nous recevrons Antoine Lilti, historien du XVIIIe siècle et pas seulement, et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui publie ce mois-ci chez Fayard « Figure publique » au pluriel, « Figure publique, l'invention de la célébrité 1750-1850 », dans lequel il revient sur ce XVIIIe siècle qui a vu naître autour de Rousseau, de Voltaire, mais aussi de certains comédiens, un nouveau type de renommée qui n'était ni la gloire ni la réputation, mais justement cette célébrité. Il nous en parlera tout à l'heure. Et puis, avec Péric Carran, nous recevrons aux alentours de 9h35 une historienne spécialiste des premiers temps du christianisme, auteur d'une biographie de Paul, artisan d'un monde chrétien. C'est chez Fayard, Marie-Françoise Baslaise. Elle est professeure émérite en histoire des religions à Paris-Sorbonne. Avec elle, nous avons lu tous les trois le dernier roman d'Emmanuel Carrère, Le Royaume, paru chez POL. Elle nous donnera sa lecture d'historienne. Il venait des hommes de tout état le visiter, et je fus témoin plus d'une fois de la manière sèche dont il en éconduisait quelques-uns. Je lui disais sans le savoir, ne vous serais-je pas importun comme ces gens-là ? Quelle différence, d'eux à vous ? Ces messieurs viennent par curiosité, pour dire qu'ils m'ont vu, pour connaître les détails de mon petit ménage et pour s'en moquer. Ils y viennent, lui dis-je, à cause de votre célébrité. Il répéta avec humeur, célébrité, célébrité, ce mot le fâchait. L'homme célèbre avait rendu l'homme sensible trop malheureux. Voici ce qu'écrivait donc Bernardin de Saint-Pierre à la fin de la vie de Rousseau. Bonjour Antoine Lilti. Rousseau qui est une des figures, sinon la figure centrale de ces figures publiques que vous décrivez dans votre livre paru dans la collection L'épreuve de l'histoire chez Fayard, donc l'invention de la célébrité entre 1750 et 1850. Alors cette célébrité, elle peut être de comédien, et vous évoquez beaucoup de ces comédiens qui, dans ce XVIIIe siècle, entre 1750 et la Révolution française et même après, vont avoir une célébrité à Londres comme à Paris. Mais aussi beaucoup d'écrivains, de philosophes, évidemment, les gens de l'encyclopédie, et en particulier donc Voltaire, dont on parlera peut-être tout à l'heure avec vous, mais également donc Rousseau, qui est le cœur de votre livre.
Oui, bonjour Emmanuel Laurentin. Effectivement, je suis très content que vous ayez cité ce passage, parce qu'il nous amène immédiatement au cœur de l'argument du livre, puisque dans le passage que vous avez cité, on voit clairement deux choses. Premièrement, les nouveaux mécanismes liés à la célébrité, c'est-à-dire Rousseau, des gens viennent lui rendre visite. Effectivement, on en a énormément de témoignages, bien au-delà de ce texte de Bernardin de Saint-Pierre. Les gens viennent lui rendre visite, pas simplement parce qu'il est en tant qu'écrivain, mais justement parce qu'il est devenu une célébrité, une figure publique. Et cette figure publique suscite non seulement suscite la curiosité, hein, le terme est dans le texte, la curiosité d'un public qui veulent voir, ils veulent pas simplement lire les livres de Rousseau, mais ils veulent le voir, le rencontrer, ils sont curieux de sa vie intime, domestique, son petit ménage. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième, on voit bien, c'est la façon dont Rousseau lui-même vit cette célébrité de manière extrêmement désagréable. Il en est fâché, alors même qu'il l'a recherché au début de sa carrière. Il la vit comme une sorte de fardeau, de malédiction.
Alors peut-être il faudrait s'attarder quelques minutes avec vous sur les prolégomènes à votre livre, puisque vous tentez de dire que ce qu'on a cru longtemps être l'apanage de la société des masses médias, celle qu'on connaît à partir de la fin du 19e et en plus particulièrement au 20e siècle, eh bien cette question de la célébrité, vous la faites remonter plus haut et vous dites on s'est régulièrement trompé. Alors, vous avez besoin, pour dire cela, de déterminer les termes. C'est-à-dire, qu'est-ce que la célébrité par rapport à la gloire et par rapport à la renommée, à une certaine réputation que l'on pouvait avoir dans son milieu de départ, et comment naît-elle de l'un et de l'autre, de ces deux autres termes ?
Oui, alors la gloire comme la réputation sont des phénomènes classiques, très anciens. la gloire est essentiellement posthume. C'est celle, bon, le grand modèle, c'est celle du héros. Mais au XVIIIe siècle, elle va être inventée sous les traits du grand homme, par exemple. Donc la gloire, c'est celle qu'un personnage peut acquérir pour des faits exceptionnels qui le rendent héroïque. La réputation, c'est celle que tout individu a une réputation dans des cercles relativement restreints de pairs, de voisins, d'amis, ce qu'au Moyen-Âge on appelait la fama. Et la grande nouveauté avec le XVIIIe siècle, c'est le fait que les réputations s'étendent très très largement au-delà, dans certains cas, au-delà des cercles restreints de réputation, tout simplement avec l'émergence des médias, c'est-à-dire la presse, les journaux, l'opinion publique, la nouvelle culture des métropoles urbaines comme Paris ou Londres. Au XIXe siècle, ce sera aussi New York, Berlin. Et cette célébrité, du coup, cette nouvelle forme de notoriété, qu'on commence au XVIIIe siècle, on l'a vu dans le texte de Bernardin Saint-Pierre, à appeler la célébrité, le terme apparaît au XVIIIe siècle, aussi bien en français d'ailleurs qu'en anglais, pour désigner un phénomène nouveau qui n'est ni la gloire, parce qu'elle n'est pas posthume, mais elle est du vivant même la personne, ni la réputation, parce qu'elle est beaucoup trop large, et surtout parce qu'elle elle ne repose pas simplement sur l'admiration, mais elle repose avant tout sur la curiosité et parfois même par un désir d'empathie, d'intimité avec la personne publique. Donc la curiosité aussi pour sa vie privée.
Alors, si on s'attache à cette curiosité littéraire, puisque nous sommes dans le début d'une semaine où nous allons parler beaucoup de littérature et de romans, cette curiosité littéraire, elle se distingue en quoi des autres types de curiosité que vous avez pu pointer dans votre ouvrage « Figure publique » Antoine Lilti ?
Alors, elle s'en distingue par l'origine, puisqu'évidemment, les écrivains, au départ, sont connus par leurs livres. Et c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, avec le développement, la croissance du marché du livre, notamment, et de l'imprimé, les écrivains vont devenir des figures publiques, comme les comédiens. Mais elle s'en distingue pas radicalement, au sens où, justement, la spécificité de la célébrité, c'est de mettre sur le même plan des écrivains, des comédiens, des héros de faits divers, des personnages, des brigands, parce que c'est un phénomène médiatique, un phénomène de notoriété, justement, elle a tendance à égaliser les critères même de la réputation et de la notoriété d'origine.
Oui, vous notez par exemple qu'un certain Volanges, qui est maintenant un peu oublié de tous, qui avait un auteur à succès qui avait écrit Les battus Pélamande, eh bien ce Volanges a, au même titre que Benjamin Franklin à la même époque ou que Voltaire à la même époque, droit à sa représentation sur ce qu'on appellerait aujourd'hui des mugs, c'est-à-dire sur tout un tas de petites vaisselles que l'on peut emporter chez soi, mais également des petits tableaux, des tableautins, des dessins, des estampes, et que ce personnage-là, qui est aujourd'hui oublié, qui était visiblement un personnage d'un théâtre populaire, voire un peu vulgaire, avait la même importance que le Voltaire et Franklin ou Rousseau dans ce type de célébrité de la fin du XVIIIe siècle.
Alors, exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, si on pointe les critères, si vous voulez, de la célébrité, comme vous venez de le dire, et notamment, vous venez d'évoquer ce qui est lié à la culture visuelle nouvelle du
18e siècle. Les objets dérivés.
Voilà, les objets dérivés, donc les portraits, mais aussi, effectivement, les petites figurines qu'on s'arrache au 18e siècle. On voit que un comédien, par exemple, donc de la farce, comme Volanges, et Jeannot, c'est son personnage, donc il est souvent confondu avec son personnage, est aussi célèbre que des grands hommes politiques ou des grands écrivains. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le discours critique sur cette équivalence se développe au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que, je cite longuement dans le texte, un texte de Louis-Sébastien Mercier, par exemple, qui critique justement le fait qu'au moment même où, à la fin de sa vie, Voltaire est à l'apogée de sa célébrité, eh bien, finalement, il est sur le même plan que Jeannot, fait du théâtre de foire, qui a plus de succès que lui. Et Mercier pointe quelque chose qui nous paraît extrêmement moderne, c'est-à-dire qu'il dit « Oui, mais dans ce cas-là, finalement, la spécificité philosophique, notamment de l'engagement de Voltaire, est affaiblie parce qu'il devrait le renforcer. Au moment même où il devient célèbre, finalement, n'importe quel histrion, n'importe quel homme de foire peut être aussi célèbre que lui. »
Parce que, compte fait, ce qu'il y a dans cette société du XVIIIe siècle, c'est le développement évidemment immense d'une culture urbaine spécifique. Vous y aviez travaillé quand vous aviez travaillé sur les salons, par exemple, mais d'autres, comme Robert Darnton, ont travaillé sur la popularisation des libelles, des textes, etc., et de l'imprimerie dans ce XVIIIe siècle, mais aussi une sorte de théâtre théâtralité sociale particulière qui fait effectivement que l'on est très présent dans la façon dont on se montre. La monstration de soi prend de plus en plus de place dans cette société du 18e, au point que vous reprenez pour un de vos chapitres le titre d'un livre de Guy Debord, La société du spectacle. Antoine Lilti.
Oui, exactement. Alors, sauf que, évidemment, chez Debord, on sait bien, la société du spectacle a une visée critique, une visée de dénonciation de ce qui apparaissait à Debord comme un phénomène tout à fait nouveau et absolument néfaste. Or, je crois qu'on peut en faire remonter les origines, justement, à cette modernité urbaine du XVIIIe siècle. On a une théâtralité généralisée, qui n'est plus, et c'est ça qui est intéressant, qui n'est plus la théâtralité de la société de cour, parce que la société de cour, on le sait bien, depuis notamment Norbert Elias, c'était une société extrêmement théâtrale, mais là, on a une théâtralité qui ne s'adresse plus uniquement à un monde clos qui est celui des courtisans, mais qui s'adresse à un public, et qui, parce qu'elle est relayée, notamment par donc ces nouveaux médias. Mais la théâtralité, c'est aussi celle justement des théâtres et des comédiens qui sont au cœur de cette nouvelle culture de la célébrité.
Et vous n'avez pas peur de mobiliser de façon un peu anachronique un terme qui est né plutôt pour le sport de masse de la fin du 19e, du 20e siècle, c'est-à-dire le terme de fan. C'est-à-dire que vous utilisez presque naturellement ce terme de fan. Il y a quelque chose qui naît aussi avec cette célébrité, que ce soit la célébrité des comédiens ou des écrivains dans ce 18e siècle. Il y a les fans qui vont avec, d'une certaine façon, qui s'intéressent, comme vous le disiez tout à l'heure, à la vie privée. Qui veulent savoir un peu plus, aller plus loin, repousser les barrières de la vie privée pour pouvoir en savoir plus sur leurs héros.
Oui, effectivement. Alors, c'est un petit anachronisme que le terme, effectivement, n'est pas utilisé, mais les mécanismes sont exactement là. On le voit avec les courriers, par exemple. Alors, les courriers d'auteurs, d'écrivains à succès.
Qui ont été utilisés pour le 19e siècle par quelqu'un comme Judith Lioncamp pour les courriers envoyés à Eugène Sue ou à Balzac, par exemple.
Exactement. Donc, il y a le travail très intéressant de Judith Lioncamp. Il y a aussi un grand article de Robert Darnton sur les lecteurs de Rousseau et qui montre bien le rapport personnel, intime, la façon dont des gens qui n'ont jamais rencontré Rousseau construisent Jean-Jacques, comme ils disent, comme un ami personnel, quelqu'un à qui se réfère dans presque toutes les conditions de leur vie. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que justement, ce n'est pas uniquement réservé aux écrivains. Par exemple, le grand comédien Talma, grand comédien de la Révolution et de l'Empire, on retrouve dans les archives de la Comédie française.
80 000 personnes à son enterrement en 1826.
Oui, quand même. Oui, donc... c'était un phénomène, c'était une grande célébrité, d'ailleurs européenne, ce qui est extrêmement connu à l'époque en Angleterre ou en Allemagne. Et on retrouve dans les archives toute une série de lettres que lui envoient des admirateurs anonymes qui lui écrivent.
L'inconnu du parterre.
Voilà, il y en a un qui s'appelle l'inconnu du parterre et qui lui commente toutes ses prestations à la Comédie française. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis surtout, beaucoup de gens qui viennent à Paris, qui veulent le rencontrer, qui l'un dit venir à Paris sans voir Talma, c'est comme aller à Rome sans voir le pape. Voilà. Donc c'est quand même. Il y a vraiment. On a une logique de fan, mais qui est d'ailleurs une logique de fan qui inquiète les célébrités. C'est ça, c'est la critique des fans. On commence à la trouver au XVIIIe siècle.
Alors, d'ailleurs, le principal d'entre eux, celui qui est le plus inquiété, c'est celui qui l'a désiré. Vous l'avez expliqué tout à l'heure et on va revenir à lui, à cette personnalité de Rousseau. Vous dites vraiment que pour vous, si vous commencez en 1750 cette étude de l'invention de la célébrité, c'est parce qu'en 1751 paraît la nouvelle Héloïse et que la nouvelle Héloïse a un tel impact, non seulement en France, mais dans le reste de l'Europe à ce moment-là, que pour vous, c'est le début de quelque chose. Et c'est aussi le début de cette Rousseau-mania, pourrait-on dire, dans les sociétés. Société donc européenne du 18e siècle et également ce début de critique par Rousseau lui-même de ce qui lui arrive au bout du compte, parce qu'il n'en veut pas tant que ça. Il en voulait alors qu'il ne l'avait pas de cette célébrité, et dès qu'il l'a, il n'en veut plus.
Alors, c'est exactement ça. Donc la célébrité de Rousseau, elle est de deux ordres. D'abord, une célébrité qui, au début, une célébrité de controverse, de polémique, de succès littéraire. Donc c'est effectivement à partir du succès du premier discours en 1751. Et donc là, il a une capacité extraordinaire à animer des controverses, à animer des polémiques, du scandale, puisqu'il a toujours des positions à contre-courant. Donc il devient déjà une figure publique. Et la deuxième étape, c'est à partir du début des années 1760. Vous l'avez dit, avec le succès de la Nouvelle Héloïse, qui est un best-seller incroyable, et surtout là qui va créer cette relation intime avec des gens qui s'identifient à Rousseau, qui veulent le rencontrer, qui lui écrivent des centaines et des centaines de lettres. D'ailleurs, au début, il les garde précieusement, donc il en est plutôt content. Et puis, progressivement, il se sent effectivement submergé par, par ses fans, par ce désir d'intimité de ses fans. Et il a l'impression d'être transformé, du coup, en un personnage dans lequel il ne peut plus s'identifier, une bête de foire. Il répond, par exemple, à quelqu'un qui voulait le rencontrer, il dit « si on veut voir le rhinocéros, on n'a qu'à aller à la foire ». Donc, jusqu'à l'époque, il y avait le rhinocéros Clara, qui était une des attractions de la foire Saint-Germain. Et donc, il y a cette angoisse très forte, mais c'est une angoisse plus puissante que ça encore, puisque c'est l'idée qu'à partir du moment où on devient célèbre, on ne peut plus avoir de relations authentiques avec les autres. C'est ce que disait Bernardin de Saint-Pierre dans le texte que vous avez cité au début. Hein, la célébrité avait rendu l'homme sensible malheureux. Donc cette opposition entre une sensibilité qui implique des relations authentiques avec les autres et la célébrité qui crée les médiations de ce personnage public, Jean-Jacques.
Alors, si on veut rentrer dans le détail, par exemple, de cette célébrité de Rousseau, vous racontez ce que je ne savais pas, évidemment, que lorsqu'il perd son chien, Sultan, les journaux le racontent. Et lorsqu'il le retrouve, quelques jours plus tard, les journaux le racontent aussi. C'est-à-dire qu'en gros, on s'intéresse au destin du chien de Jean-Jacques Rousseau, comme on peut s'intéresser avec sérieux à ses propres écrits. Et évidemment, on connaît l'épisode de l'incident de Mélim Montand, qui devient une sorte de moment traumatique, pourrait-on dire, dans la société du XVIIIe siècle, parce qu'on ne sait pas si Rousseau va vivre ou mourir d'avoir croisé justement un autre chien sur son passage à Mélim Montand. On voit bien comment, effectivement, ce personnage-là est construit et surtout comment les ressorts médiatiques, même s'ils sont moins nombreux qu'aujourd'hui, de la célébrité, se mettent en route, Antoine Hilty.
Alors, exactement, ça, c'est le rôle extrêmement important de la presse. Et vous avez... Alors, l'épisode que vous citez du chien Sultan est très intéressant parce qu'il se situe à Londres. C'est au moment où Rousseau donc, accompagne David Hume à Londres, en 1766.
Avant qu'il ne soit fâché.
Voilà, avant qu'il se fâche. Or, Londres est en avance de ce point de vue-là, parce qu'il y a une liberté de la presse. Il y a énormément déjà de quotidiens et de journaux en Angleterre. Et là, du coup, Rousseau va être pris encore plus que ce n'était le cas en France, dans ce maelstrom médiatique. Effectivement, et c'est David Hume qui rapporte ça, il en est un peu choqué. Il dit la moindre circonstance anecdotique concernant Rousseau est rapportée dans les journaux. Il prend cet exemple. Et si on regarde dans les journaux londoniens des années 1760, on s'aperçoit que c'est absolument vrai. C'est-à-dire qu'il y a tous les jours des articles sur Rousseau, sur sa vie privée, sur son caractère, etc. Donc, on a cet aspect, effectivement, et le dernier épisode que vous citez, c'est-à-dire le moment, l'accident à la fin de sa vie, au moment où il est renversé par un chien, ce qui va donner quand même à Rousseau cette espèce de privilège douteux, si vous voulez, de lire sa propre nécrologie dans le journal, puisque un des journaux avait appris, effectivement, qu'il avait été renversé par un chien et avait publié la nécrologie de Rousseau. Il en est un peu, évidemment, un petit peu attristé. Mais c'est un effet de miroir, tout d'un coup, de devenir tellement célèbre que sa vie, y compris sa mort, est racontée dans la presse.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à ce moment-là, il est un peu effrayé par ce qui lui arrive, Rousseau, comme d'ailleurs d'autres que vous croisez sur votre chemin d'historien, Antoine Hilty le sont. Effectivement, cette pression qui est nouvelle pour la plupart d'entre eux, ils ne peuvent plus sortir, aller au café sans être importunés, des gens qui leur demandent quelque chose, etc. Des importuns qui viennent frapper à leur porte, par exemple, qu'au bout d'un certain temps, ils décident d'une procédure de retrait public. Mais ce qui est extraordinaire, et ça c'est le mécanisme de la célébrité qui le fait, c'est que plus il se retire, au bout du compte, plus il est célèbre et plus il fait parler de lui. C'est le prince de Ligne qui, peut-être apocryphe, puisqu'il raconte après la mort de Rousseau, dit « je suis allé le voir et je lui ai dit plus vous vous cachez et plus vous êtes en évidence ». Antoine Hilty.
Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que effectivement, Rousseau, il est pas le seul à cette réaction. Bon, je suis devenu trop célèbre en quelque sorte. J'ai voulu être célèbre parce que la célébrité, c'est le succès. Je suis devenu trop célèbre. Si je veux retrouver de l'authenticité, à la fois aux yeux des autres et à mon propre regard, je dois donc être solitaire. Et c'est effectivement ce que tous ces textes autobiographiques de la fin de sa vie sont sur ce mode. Et puis sa vie quotidienne, c'est-à-dire qu'effectivement, il refuse par exemple de recevoir des gens. Mais du coup, parce qu'il est déjà célèbre, son personnage public va intégrer cette dimension. C'est-à-dire que Jean-Jacques devient ce personnage qui est à la fois célèbre, mais qui refuse d'être célèbre. Et du coup, ça en fait un personnage singulier, la star atrabilaire, si vous voulez. du coup, ce personnage singulier fascine d'autant plus. Alors, on le voit bien dans les témoignages qu'on a. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, ça devient un défi de quand même de pouvoir rendre visite à Rousseau, de vaincre son refus de la célébrité. Et du coup, il est pris encore plus dans cette dynamique. Et donc ça, c'est quelque chose. La célébrité, c'est extrêmement difficile d'y échapper parce que même le refus de la célébrité la nourrit.
Oui, parce que par ailleurs, pour accéder à cette... Une fois qu'on a accédé à cette célébrité, il faut pouvoir l'assumer, pas simplement par les croisements que l'on peut avoir avec des dizaines ou des centaines d'individus qui peuvent vous importuner, mais également par les codes de la société de l'époque. Vous expliquez que ce que tous les historiens de Rousseau connaissent bien, c'est-à-dire que Rousseau n'aimait pas la vie mondaine et qu'il n'en avait surtout pas les codes, la façon de parler, l'esprit des salons, et qu'effectivement, d'un seul coup, il se retrouve plongé dans ses salons, il doit faire assaut de bons mots et d'esprit brillant. Et comme ça ne lui convient pas, eh bien, il ne sait pas trop quoi faire, Antoine Lilti.
Oui, alors, en fait, ce qu'il va justement décider, c'est ce qu'il appelle sa réforme personnelle. Donc, très tôt, il décide de rompre avec ses codes, de ne plus fréquenter les salons, de ne plus s'habiller comme un homme du monde, à la différence des autres écrivains.
S'habiller comme un Arménien, comme on dit à l'époque.
De s'intégrer dans la société. Donc, mais du coup, en faisant ça, à la fois, il prétend affirmer son authenticité, justement, le fait que lui ne joue pas les faux-semblants de la société mondaine. Mais du coup, il construit un personnage public qui est justement un personnage extrêmement singulier, celui qui est en rupture avec les codes, celui qui dénonce la société. Et ce personnage de Jean-Jacques devient extrêmement populaire. Donc, par exemple, on le représente avec son habit d'Arménien, sa coiffe de fourrure. Et lui-même, en fait, il se rend bien compte que ça a été retourné, au fond, en argument publicitaire, autopublicitaire. Alors d'ailleurs, beaucoup de gens tiennent cette critique et disent « Rousseau est prêt à tout pour être célèbre ». Je crois que c'est Madame Dudéfant qui dit qu'il serait prêt à commettre un meurtre s'il était sûr que ça le rendrait plus célèbre. Donc, il y a cette espèce de tension de laquelle il n'arrive pas à sortir.
Alors, il y a d'autres exemples, mais votre livre, en fait, se veut aussi un livre théorique, un livre critique, par exemple, par rapport à l'œuvre d'Habermas sur la question de la notion d'espace public dans ces années-là. Et vous vous posez une question qui est, par exemple, la popularisation des gens vivants. Et vous dites tout simplement, vous posez une question toute simple en ouverture de chapitre, où voyait-on avant le XVIIIe siècle des portraits de gens vivants? Alors certes, il y en avait, Louis XIV, les médailles, les faces des pièces de monnaie, deux ou trois souverains en Europe, mais puis progressivement, ce ne sont plus des souverains, ce sont des hommes de théâtre, comme on l'a dit, ce sont des écrivains, ce sont des gens de ce qu'on appellerait plus tard la société civile, entre guillemets, Antoine Lilti.
Oui, on a une transformation, effectivement, des conditions de visibilité qui est au cœur de la société. Alors, je réponds sur les deux points. C'est-à-dire que, d'abord, sur cette question de visibilité, là, si vous voulez, mon argument, il est contre cette idée que tout se transforme avec la photographie. C'est-à-dire qu'il y a un argument dans les travaux classiques ou plus récents sur la célébrité et la visibilité publique, qui est l'idée que la grande rupture, c'est la photographie qui transforme les conditions de visibilité publique. Alors, Nathalie Hainic, qui est sociologue, a écrit un très beau livre sur la visibilité comme forme nouvelle de médiatique. Mais si on regarde le XVIIIe siècle, on s'aperçoit qu'en fait, on a déjà une transformation des conditions techniques, et ça, c'est très important, la dimension technique dans les phénomènes de publicisation et de célébrité, avec le développement des gravures,
des estampes, donc de ce qu'on
en parlait tout à l'heure, de toutes les figurines publiques, etc. Ce qui fait que, par exemple, Rousseau, mais aussi Voltaire, Benjamin Franklin, vont être connus, reconnus par des gens qui, simplement... Donc la célébrité
n'est plus... On dit que Rousseau, quand il passe les barrières de Paris, quelqu'un le reconnaît, avant même qu'il soit arrivé.
C'est Voltaire, au moment où il arrive effectivement à Paris, mais Rousseau, il y a des gens qui lui écrivent pour lui demander de lui envoyer, en fait, une estampe signée, donc en fait, une photo dédicacée, si on voulait être un petit peu anachronique. Donc il y a cet aspect, mais ce que vous disiez sur Habermas, c'est aussi très important, parce que à l'inverse, les 18e, les modernistes, ont tendance à, lorsqu'ils pensent l'espace public ou l'opinion publique au XVIIIe siècle, en avoir une approche très rationaliste. Hein, l'opinion publique ou l'espace public au XVIIIe siècle, c'est d'abord l'émergence des Lumières, de la discussion rationnelle et critique. Et ce que j'essaye de montrer, c'est qu'en réalité, les mêmes dispositifs techniques, par exemple la presse, vont dans les deux sens. Ils peuvent aussi bien alimenter la discussion critique, mais ils alimentent aussi des mécanismes, effectivement, de curiosité pour la vie privée des personnes publiques.
Donc, ça me rappelle quelque chose.
Ça vous rappelle quelque chose, oui. On n'a pas juste au XVIIIe siècle un espace public rationnel, éclairé, et puis aujourd'hui un espace public du voyeurisme et de la pipolisation. Vous voyez évidemment à quoi je fais allusion, la même chose que vous.
Vous terminez le livre par ce mot « voyeurisme contemporain ». Je me suis dit, il l'a écrit en prévision de ce qui se passe cette semaine, en l'occurrence.
Mais ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, il a une très longue histoire, alors, qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais par exemple, sur la people, il y a un chapitre sur la politique, et je montre que la peopleisation politique qu'on dénonce aujourd'hui, évidemment, on en a des formes extrêmes, mais en réalité, elle est absolument, son émergence est contemporaine de l'émergence même du fonctionnement démocratique avec la Révolution française. Et si on prend l'exemple de Mirabeau, on a déjà une forme assez avancée de peopleisation politique.
Sans compter celui qui va succéder à la Révolution française, à savoir Bonaparte, sur lequel vous insistez beaucoup dans un chapitre, sur les usages, disons, de cette image, de cette peopleisation, de cette célébrité toute nouvelle inventée au milieu du XVIIIe siècle par un homme politique, par un souverain, qui va essayer d'utiliser tous ces moyens qui sont à sa disposition pour faire sa propagande.
Le mémorial de Sainte-Hélène, alors on le raconte toujours qu'on en parle, c'est toujours la construction idéologique de la gloire de l'empereur. Mais enfin, si on le lit, qu'est-ce qu'on a en fait? On a quelqu'un qui a partagé la vie intime et personnelle de l'empereur. Alors pas amoureux, certes, mais enfin intime, puisqu'ils étaient quelques-uns à Sainte-Hélène, et qui raconte dans le détail, et dans le détail très quotidien, la vie de l'empereur déchu. Et ça va avoir un effet absolument considérable dans la construction de l'empathie, en fait, pour l'empereur.
Alors, on a compris pourquoi vous commenciez en 1750. On va peut-être s'attarder deux secondes sur la fin de votre période. Vous passez au-dessus de la Révolution française et vous rompez avec les codes traditionnels qui permettent de séparer époque moderne et époque contemporaine par l'intermédiaire de la Révolution française, l'émergence de la Révolution. Et vous dites, tout compte fait, ça continue évidemment au 19e siècle. Et vous allez jusqu'à ces modes musicales romantiques et jusqu'à la listmania du milieu du 19e siècle. Pourquoi avoir considéré que c'était un même ensemble, Antoine Lilti?
Alors ça, je crois vraiment. Alors, plus généralement, je pense que pour beaucoup de phénomènes socio-culturels, la période qui va effectivement du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle est une période très cohérente et dont on n'aperçoit pas toujours la cohérence à cause de la coupure politique. Et donc là, je plaide très fortement, avec d'autres d'ailleurs, pour penser cette période comme un tout. Et alors, sur la célébrité, c'était d'une certaine manière aussi un test et... Il me semble, en tout cas les lecteurs le diront, mais je trouve que ça marche extrêmement bien parce qu'effectivement, si on regarde ce qui se passe dans les années 1820-1840, aussi bien du côté de Byron, par exemple, que du côté de Liszt, on trouve quelque chose, on est vraiment dans la continuité de ce que je décris sur les années 1760-70 autour de Voltaire, de Rousseau, mais aussi de comédiens comme Garrick. Donc on a simplement une petite accentuation, on a une accentuation, mais on a des phénomènes qui sont très très proches, à la fois dans les mécanismes, mais aussi dans le discours qui est porté et tenu. Donc, c'est ce que j'appelle le premier âge de la célébrité. Je considère qu'il n'y a pas de rupture radicale dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mais c'est vrai que le développement de la presse, et notamment de la presse illustrée, de la photographie, puis du cinéma, c'est-à-dire le développement beaucoup plus rapide de ce qu'on appelait en fait les mass médias, vont simplement accélérer, accentuer ces mécanismes de la célébrité, ce qui fait que on rentre quand même dans un deuxième âge de la célébrité. Donc je voulais à la fois montrer une inflexion à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, et puis on rentre après au XXe siècle dans quelque chose qui est plus connu, donc ça m'intéressait moins de le redire. Mais l'argument principal, il est quand même que la célébrité du XXe siècle, elle n'est qu'une forme accentuée de choses qui se sont vraiment inventées, aussi bien dans son fonctionnement social que dans les discours qui sont tenus au XVIIIe et au début du XIXe siècle.
Oui, c'est ce que vous dites en conclusion de votre livre, Antoine Lilti, c'est-à-dire, en gros, vous dites aux historiens du cinéma, par exemple, faites attention à ce que vous dites. Ce cinéma, on pensait qu'il est à l'origine d'un renouveau de la célébrité, en particulier de ce qu'on appelle soit les vedettes, soit les stars, eh bien, allez un peu en arrière, allez voir un peu au XIXe et au XVIIIe siècle pour voir quelles en sont les origines.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu... Les premiers travaux sur la célébrité, je pense par exemple, le premier travail sociologique était celui d'Edgar Morin sur les stars, était vraiment très concentré sur les stars hollywoodiennes. Bon, alors aujourd'hui, avec la télévision et surtout avec maintenant Internet, finalement, on s'aperçoit que les mécanismes de la célébrité vont bien au-delà et sont très largement... Que le cinéma, finalement, en a été une époque, en a été un moment. Voilà, moi, je plaide surtout pour qu'on regarde en arrière et on s'aperçoit très bien de la continuité et de la transition.
Merci Antoine Lilti. J'ai terminé par le cinéma parce que le film de votre frère Thomas Lilti est en salle ces temps-ci, c'est ça, Hippocrate.
Exactement.
Vous avez fait un plan média. En fait, vous saviez ce qu'il fallait faire pour faire de la célébrité.
Non, parce que si j'avais su, j'aurais rajouté effectivement un petit chapitre puisqu'il est en train de devenir lui-même une figure publique avec la sortie de son film. Et donc voilà, ça sera peut-être pour le prochain livre.
Pour la réédition. Merci. Votre livre, c'est Figure publique, l'invention de la célébrité dans la collection L'épreuve de l'histoire chez Fayard. Merci à vous, Antoine Lilti. Bonjour Perrine Kervran.
Bonjour.
Et bonjour à vous Marie-Françoise Basselez. Vous êtes notre invitée pour la deuxième partie de cette émission du lundi, puisqu'il faut repréciser à nos auditeurs comment fonctionne désormais cette fabrique nouvellement transformée, non seulement un nouveau générique, mais cette émission du lundi séparée en deux, où dans la deuxième partie, nous annonçons la thématique de la semaine à venir, à savoir cette thématique sur les romans de rentrée à caractère historique, Perrine.
Voilà, donc comme chaque année, on a fureté à la fin de l'été sur le site Electre, dans les programmes des éditeurs, avec des mots-clés roman, histoire, fiction historique, roman et guerre, roman révolution, roman Moyen-Âge. Et comme chaque année, il y avait beaucoup de livres à trame historique, des polars, des fresques, des récits romancés du médiéval, de la tranchée, du goulag, des esclaves, des soldats, des sportifs et même des prophètes, comme on va le voir tout à l'heure. Et puis on a vu se dégager une dominante, celle de la biographie romancée, alors de personnages célèbres ou non. Donc Frédéric Becbédé qui raconte un amour de Salinger, David Fuenquinos qui raconte dans un long poème un peu naïf la vie de Charlotte Salomon, Judith Bruce qui retrace la vie du couple Marie et Percy Shelley, Eliette Abécassis qui nous parle de Freud, Lydie Salver qui nous raconte l'itinéraire intellectuel de Bernanos pendant la guerre d'Espagne, Nelly Capriélian qui tente une biographie de Greta Garbo à travers sa garde-robe mise aux enchères. Donc voilà, beaucoup de choses. Et parmi ces biographies, on en a choisi trois pour tourner autour de l'idée des façons différentes de rêver la biographie et puis de la réinventer. Alors, on va parler donc de Jacob Jacob, donc Jacob Jacob de Valéry Zenati, sur un soldat juif de Constantine qui se trouve projeté dans la Seconde Guerre mondiale, Tristesse de la Terre d'Éric Vuillard qui brode un portrait des débuts de l'Amérique et de ce qui la fonde à travers quelques épisodes de la vie de Buffalo Bill, un livre qui se base aussi sur de la photographie, et puis Viva de Patrick Deville, une déambulation dans les pas de Trotsky et de Malcolm Lowry, donc prisonnier l'un de son alcoolisme, l'autre de sa condition de bête traquée, et donc qui est aussi l'occasion d'évoquer Frida Kahlo, qui n'a pas sa langue dans sa poche.
Voilà, et jeudi, nous aurons d'autres romans encore. Et demain, nous recevrons donc Pierre Lemaître, que nous avions reçu en tout début de saison l'année dernière, avant donc son concours et sa célébrité soudaine. Lui qui était plutôt habitué à parler de ses romans policiers et pas des romans de grande littérature. On en discutera avec lui. Alors aujourd'hui, nous allons débattre avec Marie-Françoise Basselez, une historienne de l'époque des tout premiers chrétiens, de ce livre qu'on vous a donné à lire en 8 jours. Merci d'avoir accepté de le lire parce qu'il est long.
Heureusement qu'on y rentre très facilement et pas seulement comme historien pointilleux.
Alors, puisque vous évoquez la façon d'y rentrer, peut-être on peut tout de suite commencer par un extrait du texte, comme ça nous donnera un argument de discussion avec vous. Donc, il s'agit du Royaume d'Emmanuel Carrère, paru chez POL. Et là, dans cet extrait, page 278, eh bien, il raconte l'expédition de Paul et d'autres chrétiens qui ont récupéré de l'argent pour aller donner à l'église de Jérusalem et qui vont s'embarquer bientôt. Voici comment Emmanuel Carrère les décrit, ces premiers chrétiens. Je les vois comme de fervents pratiquants de yoga quittant Toulouse ou Düsseldorf pour un long séjour en Inde dans l'ashram du maître de leur maître. Depuis des mois, ils ne pensent plus qu'à ça, ils ne parlent plus que de ça, ils ont acheté la méthode assimile de Bengali et ils connaissent les noms de toutes les postures en sanskrit. Leur tapis est roulé serré, pour prendre le moins de place possible. Ils ont refait 10 fois leur sac à dos et passé des nuits blanches à en récapituler le contenu, craignant tour à tour d'emporter trop et pas assez. Avant de fermer la porte, puis de la rouvrir pour s'assurer qu'ils ont bien éteint le gaz, ils ont une dernière fois fait brûler devant leur petit hôtel les bâtonnets d'encens et psalmodié Om Shanti sur leur coussin de méditation, comme Luc, qui n'est pourtant pas juif, tient à nous faire savoir qu'il est parti après avoir célébré la fête des Azim. Voilà un extrait qui nous plonge dans ce roman de Emmanuel Carrère avec ce qu'on appelle un formidable anachronisme. Et ça n'est pas le seul anachronisme de ce roman, Marie-Françoise Bassez. Est-ce que c'est efficient, efficace pour nous rapprocher de ce temps des premiers chrétiens ?
C'est sûrement pas ce qui m'a fait rentrer facilement dans le livre. Moi, les analogies avec un saint Paul Routard ou bien les sports martiaux, le modèle des groupes de sports martiaux, sur lesquels je ne connais rien d'ailleurs, proposé comme un modèle donc, des premières communautés chrétiennes. Pour Emmanuel Carrère, mais pas toujours. Hein. Enfin là, en tout cas, il présente Paul comme un Routard. Moi, j'y vois plutôt un grand notable qui a toujours balisé et sélectionné ses objectifs et ses lieux. Et
il le présente aussi comme ça, d'ailleurs.
Oui, ce que je dis, pas toujours, ouais, à la vision ça. Du Routard. Puis de toute façon, dans ce livre, le héros, le personnage charnière, c'est pas Paul, c'est Luc. Alors, l'intérêt de ce livre, qui n'est pas une biographie, qui n'est même pas un ensemble de biographies, même s'il y a un héros réellement, l'auteur du troisième évangile et des actes des apôtres, c'est quand même de nous présenter c'est surtout de nous présenter une vision synthétique de ce qu'on peut appeler la génération apostolique, les trois premières générations donc, où s'est diffusé ce qu'on appelle alors l'évangile, pas encore le christianisme, et qui va donner la religion chrétienne. Alors la vision de Carrère n'est pas neuve, hein, son interprétation de la période n'est pas neuve. En définitive, il s'agit de minorer l'importance fondatrice de Paul, de restituer, de réhabiliter des figures soi-disant occultées par le Nouveau Testament comme celle de Jacques, et de dire de la prédication de Jésus, il y avait deux formes de religion en gestation, l'une une construction théologique et doctrinale, la religion de Paul, ou prêchée par Paul, ce serait plus juste, et une religion plus humaniste, plus compassionnelle, tirée directement des paroles de Jésus. Et c'est ça le but de l'enquête. C'est la partie certainement la plus intéressante pour un historien du livre, la troisième partie de cette enquête donc, de retour aux origines que va donc pratiquer Luc, futur évangéliste, rédacteur auteur d'évangile, et donc qui est vraiment le héros et le personnage charnière dans lequel, je pense, l'auteur, enfin Emmanuel Carrère, s'identifie.
Oui, parce qu'il le voit comme un écrivain, en fait, c'est
alors,
cela.
Voilà. Si on saute maintenant, donc je vous dis, il me semble que ce n'est pas une vision nouvelle du tout de l'histoire du christianisme, c'est une parmi d'autres dans laquelle entre Emmanuel Carrère. Alors, il y a deux... Ce qui est intéressant et sur lequel il faut revenir, c'est sa démarche, c'est profondément celle d'une démarche historique qui incite donc l'historien à réfléchir. C'est-à-dire que ces trois premières générations de ceux qui diffusent l'Évangile, on ne peut les retrouver qu'à travers la rédaction du Nouveau Testament, des textes du Nouveau Testament. Donc, il y a un travail à faire sur les sources, et c'est une très belle partie, l'enquête, qui nous y incite. Si on saute maintenant aux conclusions, et c'est votre réflexion, Emmanuel, qui m'y fait intervenir, si vous voulez, le débat rentrer dans le travail de diffusion de l'Évangile de Jésus durant cette première génération, on oscille entre tradition orale, la recherche oscille entre tradition orale, importance de tradition orale et importance de l'écrit. Évidemment, comme toujours, les approches historiques complexes combinent les deux. Mais en tout cas, donc, on en fait toujours le résultat d'un travail de mémoire communautaire au pluriel, c'est-à-dire des petits groupes chrétiens dans lesquels sont passés des gens qui ont connu Jésus ou ses principaux disciples, qui ont gardé des écrits, qui ont pris des notes. Et de ce travail complexe, donc, se mettent en place des pans majeurs qui vont finir par donner le Nouveau Testament. Donc, vraiment, quelles que soient les approches, les divergences entre historiens des débuts du christianisme, on y voit toujours une construction de mémoire communautaire. Et Carrère nous propose autre chose. Il dit non. C'est la construction d'individualités fortes, d'auteurs, d'écrivains. Ouais. Alors, c'est moyennement convaincant. On peut penser peut-être que c'est la projection autobiographique de l'auteur.
Périne Caron.
Oui, parce que Emmanuel Carrère affirme à plusieurs reprises dans des interviews qu'il a voulu faire une œuvre pédagogique, une œuvre de transmission, donc un petit peu faire une œuvre d'historien.
Mais chacun a le droit de transmettre l'histoire du christianisme, celle qui l'aperçoit.
Voilà, hein, voilà, l'histoire ne partir à personne, enfin, partir aux historiens et aux autres.
Voilà. Alors, on peut peut-être aussi, ce qui est intéressant aussi pour l'historien, qui paraît quand même un peu anhistorique, c'est le critère. Bon, l'historien, il utilise les sources, il cherche de l'assurer, la preuve par le document, l'archéologie, l'épigraphie, la numismatique, plus que les textes littéraires, et il va jusqu'au vraisemblable. Encore le vraisemblable, certains le refusent parmi les historiens. Alors, Carrère, lui, nous propose un autre critère qui est le non-impossible.
Ah oui, c'est un critère, d'ailleurs.
C'est son critère.
Oui, c'est son critère, il le répète.
Ce qui fait qu'on peut, évidemment, lui objecter peu de critiques.
Ouais.
Et qu'il y a réellement peu de choses dans ce qu'il utilise. Parce qu'en fait, donc, je reviens sur l'intérêt de sa démarche pour moi. C'est-à-dire, cette opposition, est-ce que les textes fondateurs du christianisme, mis en forme à la fin du 1er siècle, le Nouveau Testament, relèvent d'une tradition orale et donc d'un lien direct avec la prédication de Jésus ou d'une élaboration doctrinale et scripturaire, lui, dans le non-impossible, il introduit donc la notion de contact direct. C'est ça la quête, c'est ça l'enquête de Luc, de chercher des contacts directs.
Oui, parce que ce qu'il raconte, on n'a pas encore précisé, on aurait dû le préciser pour nos auditeurs qui n'ont pas encore lu ce livre, c'est que Luc mène une enquête, il va voir, il va un peu partout, auprès de ceux qui ont connu Jésus, pour leur demander, mais alors là, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Est-ce que vous pouvez me raconter? Il y a ça, il y a cette
non, la recherche, non, c'est la recherche de ses paroles
oui,
vivantes.
Oui, c'est ça.
C'est un peu différent. Donc ça, c'est cette enquête, cette quête du contact direct, est-ce qu'elle est plausible, vraisemblable? Eh bien oui, bien qu'ils ne le disent pas explicitement. Il y a une génération après Luc, une figure, un évêque de Hiérapolis dans l'actuelle Turquie, qui a été un grand écrivain, qui a fait des commentaires exégétiques des paroles de Jésus, qui sont perdues évidemment, et qui nous a laissé quelques notes autobiographiques qui se présentent comme telles. Il a cherché les paroles vivantes à travers donc des disciples de Jésus, il cite Philippe, et il cite Pierre, il cite pas Paul d'ailleurs, mais c'est l'évêque d'une fondation paulinienne. Donc il a été cherché comme le Luc de Carrère à l'extérieur de Paul, et des contemporains aussi de son temps. Donc la figure de Luc dans le roman de Carrère, on ne peut pas l'étayer historiquement quant à Luc, mais elle est plausible. Et il y a eu des passeurs d'évangiles, je crois que c'est le terme qu'il faut employer, il y a eu des passeurs d'évangiles, peut-être pas très nombreux, mais identiques à la figure de Luc telle qu'il l'utilise.
Qu'est-ce qui justifie, selon vous, justement, ce type d'attitude à ce moment-là? C'est-à-dire des gens qui se disent, il faut que je mène une enquête pour entendre bouche de témoins ce qu'a dit Jésus.
Non, c'est l'enquête de l'historien. Il faut remonter à Hérodote, l'historien grec, le père de l'histoire. On est là aussi dans une séquence très particulière qui est celle des trois premières générations. Et dans les critères de l'historiographie antique grecque, c'est le moment où on peut encore avoir affaire à des témoins directs, ce qu'Hérodote nous explique très bien. Donc tout cela est très plausible et très naturel historiquement pour la période donc d'écriture des évangiles. Mais cette question des paroles vivantes, rechercher des paroles vivantes, il ne faut pas lui donner la dimension mystique, charismatique, de contact avec le fondateur que vous seriez peut-être tenté de lui donner. En fait, c'est un type d'apprentissage et d'information qui apparaît dans des milieux à la fois intellectuels et professionnels. Par exemple, dans les écoles de médecine, on a des paroles identiques de Galien, que la formation du disciple, de l'apprenti, puisque quand il s'agit d'un médecin, ça doit se faire plus par une transmission orale que par des écrits qui sont aussi nécessaires. Alors cela, ajouté au fait qu'il est mis en évidence par l'histoire culturelle récente de l'Antiquité, que ce qui circule dans les premiers groupes chrétiens, ce sont des écrits aussi de type professionnel, ces petits carnets de notes qu'on appelle des codex, et non pas, comme nous dit Carrère, le volume qu'il a reçu chez Philippe, donc forme d'expression littéraire, Tout cela tend quand même à confirmer que le mode de diffusion de l'évangile s'est fait davantage selon les procédés des groupes professionnels, amicaux, etc., articulés entre eux, que par des figures d'auteurs littéraires et d'écrivains, ce qui est quand même une des conclusions auxquelles il aboutit.
Périne Caron.
Alors, il y a aussi une autre chose que Emmanuel Carrère met en avant dans son livre. Donc, c'est évidemment redonner une taille humaine, un aspect réaliste à cette aventure de ces groupes, qui des premiers chrétiens. Et puis, il dit qu'il veut retrouver l'extravagance du message chrétien, c'est-à-dire ce qu'il avait de révolutionnaire, de complètement différent de tout ce qui se faisait jusque-là. Est-ce que c'est quelque chose aussi que...
Non, je vais réagir d'abord parce que c'est ça qui, à mon sens... pose l'essentiel du problème, l'essentiel des divergences entre le point de vue de l'historien et celui. Non, il fait pas de l'histoire romancée. Il introduit une quête historique sans utiliser toujours tous les critères de l'historien. C'est la question de réalisme. Ça m'a un peu amusée en lisant donc ce qu'Emmanuel Carrère écrit de Jésus. J'ai eu l'impression de voir des manuels d'histoire des années 90, quand je m'intéressais beaucoup à la formation des historiens, des professeurs d'histoire du secondaire, où il fallait faire une page sur Jésus, le Jésus historique, et en bon historien, contextualiser le Jésus historique, on le contextualisait par les paraboles. Alors, un peu comme chez Carrère, les petits oiseaux se promener dans un beau paysage, les petits oiseaux, les fleurs des champs, etc. C'est-à-dire que vous avez employé aussi à plusieurs reprises le terme de biographie. C'est occulter ou ne pas prendre conscience qu'un texte dans l'Antiquité n'est jamais un texte neutre. Il n'y a pas de biographie, il y a des récits de vie, ce qui est très différent. C'est-à-dire que tout détail est significatif. Mmh. Tout élément retenu est retenu pour son sens et non pas donc pour sa réalité historique. J'étais aussi étonnée, je ne sais plus pour quel récit de la Passion, je ne sais plus si c'est Luc ou Jean, où Carrère s'estime frappé par le réalisme de la description évangélique. On peut l'être de façon épidermique, mais le devoir donc de l'historien comme de l'exégète est de dire mais derrière tous les éléments font sens. Et donc je peux donner je donnerai deux exemples, c'est-à-dire qu'il lit au premier degré, c'est-à-dire que pour lui le sens de sa démarche qu'il prolonge, il prolonge celle de Luc, aller au contact direct, le fait lire au premier degré ce que l'exégète, comme l'historien et comme le théologien. Qu'il s'agisse de ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique, chercher le contexte historique, ou de ce qui se fait actuellement à la narratologie, c'est la même chose, c'est de dire tout ça sont des représentations qu'il faut d'abord décoder avant de retrouver un substrat de réalité historique. Alors je vais vous donner un exemple pittoresque, si vous voulez. Le portrait de Paul. Comme dit Carrère, Paul est un des rares de l'Antiquité pour lequel on a un portrait littéraire, d'abord de la fin du second siècle, et ensuite popularisé sur toutes les peintures des catacombes, etc. Bon. Alors, il l'apprend au premier degré. Ben, c'était un petit bonhomme rabougri sur des jambes torses, chauve et plutôt moche.
Ouais.
En fait, l'habitué des sources littéraires antiques, païennes, vous dira c'est le portrait stéréotypé et physiognomonique de l'orateur charismatique. C'est-à-dire tous les portraits antiques sont construits sur cette science qu'on appelle la physiognomonie et que tous les traits relevés, c'était pas encore criminaliste à l'époque, doivent représenter donc,
un trait de caractère.
Donc les jambes torses, c'est le bon orateur, celui qui est bien campé sur ses jambes quand il parle. Et la calvitie est faite dans le portrait de Paul pour faire ressortir l'arcade sourcilière et le nez busqué qui font fulgurer ses yeux. Donc c'est le portrait typique pour d'autres sophistes également de l'orateur charismatique. Vous voyez que tout doit être interprété.
Alors, ce qu'on a oublié de dire, mais tous ceux qui ont entendu parler de ce livre depuis la rentrée littéraire, parce qu'il fait beaucoup de bruit, le savent, c'est qu'effectivement, il y a toute une première partie qui n'est pas consacrée à l'histoire de Paul et à l'histoire des premiers chrétiens, mais à la conversion temporaire.
C'est pas du tout l'histoire de Paul.
Mais la première partie est consacrée à Emmanuel Carrère soi-même, à sa conversion temporaire pendant 3 ans, à sa découverte de Saint Jean, etc., etc. Est-ce que vous pensez que cette partie-là, qui est la partie de départ, quand on commence le roman, sert à éclairer l'ensemble de du processus d'écriture d'Emmanuel Carrère, et en particulier tout ce qu'il dit sur ses premiers chrétiens que vous connaissez bien, Marie-François.
Oui et
Bastet.
Non, vous m'aviez dit, puisque j'avais très peu de temps pour le lire, que je pouvais faire l'économie des 150 pages. Oui. J'ai donc commencé par la seconde partie sur Paul et je me suis rendu compte que c'était impossible. Donc,
Moi, j'avais tout lu, donc je me disais, peut-être on peut aller...
Donc, j'ai tout lu. Alors, ça m'a aidé à passer sur des anachronismes, parfois un peu horripilants pour moi, des autres parties. Mais non, je pense que la vision qu'il présente de ce qu'on peut appeler l'évangélisme, enfin la période apostolique, non, est indépendante de son histoire personnelle.
Antoine Litti, vous vouliez poser une question pour finir à Marie-Françoise Bastet.
Oui, c'était plutôt une remarque générale. C'est très frappé qu'on puisse discuter, commenter sur le plan à la fois de l'interprétation historique et de la méthode un texte qui se présente comme un texte littéraire, un texte d'un romancier. Alors j'y vois, je ne critique pas du tout la chose, j'y vois un symptôme en fait du qui intéresse peut-être la semaine là consacrée au roman historique, de brouillage des genres entre...
Du tremblement même.
Oui, du tremblement entre littérature et histoire. Je pense qu'il va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois du côté des écrivains qui s'intéressent de plus en plus à des enquêtes sur le passé, mais aussi du côté des historiens qui ont de plus en plus tendance à mettre en scène leur rapport biographique, voire familial, à l'objet de l'enquête. Qu'est-ce que vous en pensez ?
La question est... Je crois que certains comptes rendus, d'ailleurs, chrétiens ont insisté sur ce sens. Ce n'est pas un livre dépourvu de foi, même si l'auteur dit avoir perdu la foi.
Ah bah oui, d'ailleurs, la phrase finale le prouve.
Et dans ce sens, donc, il y a une logique, comme l'a dit Perrine. Il prolonge, tout en disant ayant abandonné la foi, il a quand même l'objectif, le désir de prolonger la transmission de l'évangile tel qu'il le perçoit.
Et sur ce tremblement que saisit Antoine Litti, qu'on perçoit vraiment de façon très nette, puisque nous avons instauré ces tables rondes fiction et ces discussions autour de la fiction depuis quelques années, parce qu'on voyait bien que les historiens ne savaient pas trop bien quoi faire avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Françoise Bastet, entre ces frontières qui deviennent de plus en plus floues, entre tentative de romancier, de faire de l'histoire et d'entrer dans ce domaine historique avec des outils tout de même, qui sont les outils du romancier, mais aussi un peu ceux de l'historien.
Je veux dire, c'est pas tellement nouveau. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, avoir préparé la création d'histoire en lisant Les Rois maudits de Druon. Et en disant, mais on y trouve une documentation qui passe plus facilement que les manuels de l'agrégation que j'avais à lire. Donc, c'est pas tellement nouveau.
Et moi-même, on m'avait proposé de lire Au nom de la rose, donc, pour préparer l'agrégation aussi à l'époque.
Non, c'est pas tellement nouveau, mais il faut prendre je crois aussi que l'historien prend davantage conscience aussi qu'il y a toujours une part individuelle d'interprétation, d'essai. Aussi, maintenant, je crois aussi que c'est le devoir de l'historien de dire la période apostolique selon Emmanuel Carrère, comme on dit selon les évangiles, d'ailleurs, est une vision parmi d'autres, qui d'ailleurs, encore une fois, n'est pas fondamentalement la sienne, elle n'est pas inédite. Donc, elle nous aide, mais ce que j'ai aimé, alors personnellement, dans ce livre, c'est que ça nous aide à entrer dans les textes. Il y a non seulement de belles pages sur lui-même, mais il y a aussi de très belles pages dans sa manière de présenter les textes du Nouveau Testament, et là c'est une preuve aussi d'honnêteté de l'auteur. Il est au service des textes.
Merci beaucoup, c'est une très belle conclusion justement pour avoir évoqué avec vous, Marie-Françoise Bastet, donc ce livre d'Emmanuel Carrère, Le Royaume, et puis si on veut vous lire, eh bien on lira bien entendu la biographie que vous avez consacrée à Paul, donc artisan d'un monde de chrétiens, c'était chez Fayard, mais également on peut lire votre travail le plus récent, Chrétien persécuté.
C'est persécuteur.
Persécuteur. Pourquoi je dis persécuté ? Chrétien persécuteur, chez Albin Michel.
Qui pose le problème, justement, qu'il ne faut jamais lire les textes au premier degré.
Merci beaucoup. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Bonnab Olivier et Aurélie Marcet. Jean-Frédéric, c'était à la technique. Et Renaud Dalmar, à la réalisation. Demain, nous aurons le plaisir de recevoir donc Pierre Lemaître, un an après le lancement de son livre qui allait conclure à son prix Goncourt. Nous allons travailler avec lui autour de la réception de son livre, la façon dont les historiens, dont il s'est beaucoup inspiré, ont pu réagir à ce livre sur l'après-Première Guerre mondiale, mais également les lecteurs et en pleine période de commémoration du début de cette même Première Guerre mondiale.